plaisir pour moi. Et dès le début, je dois vous avouer que c'est vraiment la première fois que j'ai fait une conférence sur ce sujet, puisque ce n'est pas le sujet que je discute normalement. Mais j'avais tellement envie de vous revoir et de revenir en France que quand on m'a proposé de participer à un congrès sur le trauma, je me suis dit, il y a quand même des liens entre notre travail et le trauma. Et quand je me suis mis dans ce domaine, on trouve des liens assez importants. Et je vais dire quelque chose, après je vais lire le texte, il n'y aura pas de diapositive, c'est peut-être une expérience nouvelle pour les jeunes qui ont l'habitude d'avoir des diapositives tout le temps. Mais il y a une dizaine d'années, le chef de la clinique qui soigne les personnes qui ont été gravement atteintes par le 11 septembre, il m'a appelé en disant, on a besoin de vous. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, oh, je veux enseigner à mon personnel votre thérapie. J'ai dit, mais ça me ferait plaisir, mais je regrette qu'il y ait un manque de compréhension entre nous, puisque vos patients sont des patients traumatisés. Ils ont besoin de thérapie qui se focalise sur le trauma et pas sur la structure de la personnalité. Et il m'a dit, non, c'est vous qui ne comprenez pas. On a traité avec du succès toutes les personnes qui ont fait des troubles post-traumatiques simples, mais il y a toute une population, 40% de nos patients ne s'améliorent pas dans ces traitements qui visent le traumatisme simple. Et on a compris que dans cette population qui ne s'améliore pas, il y a un problème de structure de personnalité limite. Donc, depuis ce moment-là, on a investi plus nos efforts dans ce domaine. Et pour ajouter à cela, on a la grande chance d'avoir une collègue hollandaise qui s'appelle Nell Dreyer, qui a été formée à Boston avec les personnages les plus importants, au moins en Amérique, qui ont fait un travail sur le trauma et comment traiter les personnes avec ces troubles. C'est Judith Herman et Bessel van der Kolk. Je ne sais pas si vous connaissez leur travail, mais ils sont les spécialistes nord-américains de cela. Et Nell Dreyer des Pays-Bas, elle s'est formée dans leur méthode, mais elle est venue comme le chef de cette clinique pour les personnes atteintes par le 11 septembre. Et elle dit, souvent c'est plus compliqué que ça. Donc mon discours va traiter des complications de la relation entre le traumatisme et la structure limite de la personnalité. Donc, je discuterai en premier une théorie qui nous aide à comprendre l'impact du traumatisme sur la structure psychique. Et deuxièmement, je vais discuter une forme de psychothérapie psychanalytique qui peut aider un certain groupe de personnes affligées par le traumatisme. Pour terminer, je donnerai l'exemple d'un cas clinique. La relation entre le traumatisme et les troubles de personnalité a une histoire complexe. Il y a une vingtaine d'années, des recherches ont démontré une incidence élevée de traumatisme infantile dans la population caractérisée par le trouble de personnalité limite. Ceci a attiré l'attention des praticiens comme des chercheurs. Certains ont mis en doute le concept même de trouble de personnalité limite, déclarant que ce diagnostic concerne une forme de trouble post-traumatique et que le trouble limite n'avait pas du fait d'existence indépendante. On nous a dit que c'était une mauvaise compréhension de ce que c'est que le trouble post-traumatique. Ces auteurs ont tenté de modifier la visée du traitement de la personnalité limite, s'éloignant d'une perspective qui privilégie la structure de la personnalité en tant que telle. Ils se sont focalisés sur l'histoire du traumatisme ainsi que sur la nécessité de faire face au passé de sorte à apprendre à vivre avec lui, le passé, et avec ses conséquences. Cependant, ces résultats sont loin d'être universels et les types de maltraitance infantile susceptibles de mener à des séquelles ne se produisent que dans une minorité de cas de troubles de personnalité. La juxtaposition suggérerait que l'adversité précoce est un facteur de risque, mais n'implique pas que le trouble limite, qui est un trouble multidimensionnel et complexe, soit une forme du syndrome de stress post-traumatique. Donc, nous insistons sur la distinction. Un autre concept qui commence à entrer en vigueur actuellement est celui du syndrome de stress post-traumatique complexe, où les événements traumatiques multiples et répétés sont censés avoir causé un éventail plus large de symptômes. Ce diagnostic n'a pas été accepté par le DSM-5, mais il devrait apparaître dans le classement de l'OMS. Cette catégorie risque d'encourager les praticiens à privilégier le facteur des traumatismes dans le trouble limite plutôt que de tenir compte d'un tableau d'une plus grande envergure. Mon objectif dans ce discours, c'est de présenter une manière d'intégrer la perspective traumatique à une perspective structurelle qui souligne l'impact du traumatisme sur la structure du psychisme ainsi que les conséquences qui en découlent. Après ces considérations théoriques, je décrirai le cas clinique d'un jeune homme qui, enfant, avait été soldat pendant plusieurs années en Afrique avant de se réfugier aux Pays-Bas. On observe fréquemment l'agressivité et la colère dans les cas de traumatisme liés au combat, et elles exercent une influence négative sur le résultat du traitement. Cependant, les théories et les traitements les plus répandus du syndrome de stress post-traumatique postulent que c'est surtout la peur qui serait l'affect dominant. La littérature sur le traitement de personnes traumatisées, y compris les réfugiés, néglige considérablement et la peur et l'agressivité. De la même manière, l'agressivité sévère n'est pas souvent définie comme un objectif, un problème important lors du traitement du trouble dissociatif d'identité. Cependant, gérer l'agressivité qui est clivée du reste du psychisme de la personne est encore plus difficile dans le cadre de ce désordre le trouble dissociatif d'identité que dans le syndrome de stress post-traumatique. Donc, avant de poursuivre par les considérations cliniques, je vais me pencher brièvement sur le modèle du psychisme tel qu'il est décrit dans la théorie de relations d'objets. Quelques concepts de la théorie de la relation d'objets nous aident à comprendre l'impact du traumatisme chez certains patients. Un concept fondamental est celui de la diffusion d'identité comme élément fondamental des troubles de personnalité grave. Ce terme de diffusion d'identité se réfère à un état du soi qui est fragmenté. Pour mieux comprendre cette fragmentation, il faut considérer le rôle de dyade de relations d'objets dans la construction de la structure psychique. Une dyade de relations d'objets consiste en premier, une image ou une représentation de soi très spécifique qui est en relation avec une image de l'autre, également une image très spécifique, et les deux sont liés par un affect intense. Donc ça, c'est ce que nous appelons la dyade relationnelle. Ces dyades, l'image de soi liée à l'image de l'autre par un affect intense, sont intériorisées au cours du développement et sont les blocs de construction, les building blocks de la structure psychique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut dire que quand le psychisme se forme et évolue, ces dyades s'organisent dans ce qui est la structure tripartite de Freud, le moi, le surmoi. Je ne sais pas le ça. La diffusion d'identité qui est là avant l'organisation tripartite est un état précoce dans le développement psychologique. Mais il est précoce, mais il reste présent dans le cas des personnes avec le trouble de personnalité limite. Quand il y a diffusion d'identité, les dyades ne sont pas intégrées dans une structure plus évoluée et elles fluctuent rapidement selon les événements déclencheurs de la vie quotidienne de la personne. Pour mieux comprendre la diffusion d'identité, on peut dire que l'élément essentiel en est le manque d'intégration des éléments cognitifs et affectifs qui constituent le soi. Cette structure clivée du soi est associée aux mécanismes de défense primitifs tels le clivage, l'idéalisation et la dévaluation, ainsi que l'identification projective. Alors, la structure clivée du psychisme est considérée comme une étape infantile, comme j'avais déjà dit. Le nouveau-né vit des expériences de satisfaction totale quand la personne nourricière répond à ses besoins. En revanche, du fait de l'absence du concept de la permanence de l'objet, l'enfant vit des expériences effrayantes d'abandon et de souffrance si l'objet nourricier ne répond pas aux besoins du moment, voire, pire encore, répond avec agressivité. Ce tri d'expériences positives et négatives est lié au développement et aux manifestations des pulsions libidinales et les pulsions agressives. Les pulsions s'organisent autour de représentations internes de soi et des autres, c'est-à-dire les propres pulsions libidinales de la personne vont s'organiser autour des représentations de la personne nourricière, tandis que les pulsions agressives de la personne vont s'organiser autour de la représentation de la personne qui n'était pas adéquate. Donc, je vais le dire encore plus spécifiquement, les pulsions libidinales s'organisent autour des représentations de l'autre nourricière et du soi comblé, et les pulsions agressives s'organisent autour des représentations de l'autre hostile et du soi rejeté ou endommagé. Cette étape du développement où les affects positifs et négatifs restent clivés constitue dans la terminologie kleinienne la position schizoparanoïde. L'esprit est clivé et à cause de la projection des affects agressifs qui ne sont pas reconnus comme partie de soi, cette position se caractérise par une paranoïa chronique, puisque l'agressivité est perçue dans l'autre et pas en soi-même. L'individu vit avec l'anxiété que la proximité à l'autre est dangereuse et comporte un risque d'attaque. Dans le développement psychologique réussi, l'expérience de la vie amène l'individu à dépasser l'organisation clivée pour atteindre l'organisation adulte où l'intégration des représentations extrêmes et simplistes se mue en représentations plus complexes, plus riches et plus réalistes de soi et des autres. Il est primordial d'apprécier l'impact du niveau de l'organisation psychique sur, en premier, la perception et l'expérience de soi, la perception et l'expérience des autres, l'expérience des affects et l'expression des pulsions. La personne organisée au niveau limite a une expérience des affects unidimensionnelle et discontinue. Elle aime patiemment et elle haït intensément. La complexité émotionnelle n'existe pas. Ainsi, ce qui est ressenti à l'instant présent, selon l'événement déclencheur, définit l'ensemble de la réalité de cette personne sans contact ou influence du vécu précédent. C'est-à-dire, on vit l'affect du moment sans un contexte plus large qui pourrait amener à diminuer l'impact de l'affect du moment. Cette structure limite, avec son clivage et ses défenses primitives, ont un impact sur l'épreuve de la réalité. Sans toutefois mener à la perte totale de l'épreuve de la réalité, l'impact des représentations internes simplistes qui sont projetées sur les expériences quotidiennes et de fausser le vécu conformément aux images exagérées du monde interne. La combinaison de ces distorsions et de l'agressivité projetée résulte en une adaptation peu réussie à la complexité du monde et des relations humaines. L'élément de ce portrait le plus significatif quant à la question du traumatisme est le manque d'intégration des affects et des pulsions agressives dans le tissu de l'organisation psychologique. Dans le développement psychologique réussi, l'individu dépasse l'organisation clivée et arrive à intégrer les affects libidinaux et agressifs. Il peut aimer avec la conscience qu'il est capable d'assumer la critique par l'objet aimé et que l'objet aimé peut le décevoir ou même lui faire mal. Le tout est vécu dans le contexte de la relation amoureuse. Cependant, les personnes avec le trouble limite ne bénéficient pas de cette étape d'intégration et continuent à vivre dans un monde clivé. L'amour doit être pur et la haine aussi. Il est évident que ceci ne correspond pas à la réalité et n'aide pas à l'adaptation à la vie. La relation entre le traumatisme et cette structure psychique clivée est réciproque. Des expériences de traumatisme précoces renforcent la partie agressive du psychisme clivé, rendant l'intégration plus difficile. En même temps, la structure clivée crée une situation où il est plus difficile d'intégrer des expériences traumatiques d'une manière qui permet de les métaboliser et de les maîtriser psychologiquement. Je passe maintenant à un portrait d'une thérapie qui s'adresse à cette problématique de la structure clivée. La psychothérapie focalisée sur le transfert, que je vais appeler la PFT, est une psychothérapie basée sur les concepts de la théorie des relations d'objets et qui vise les troubles de personnalité. Cette thérapie est organisée dans divers manuels et est fondée sur des bases empiriques après une série d'enquêtes cliniques. Cette thérapie met l'accent sur l'impact des défenses primitives telles qu'elles se déploient en situation thérapeutique. Vous voyez qu'on entre dans le vécu. Il faut revivre d'une certaine manière l'expérience intérieure de la personne dans les séances thérapie. Les éléments clivés du monde interne vont se manifester dans les séances de thérapie d'une manière dissociée. Le patient communique ce dont il est conscient par la parole, mais les éléments du monde interne que le patient ne peut pas tolérer se manifestent dans la rencontre patient-thérapeute par la communication non-verbale ou par les réactions contre-transférentielles suscitées par l'identification projective. L'identification projective est au cœur de la démarche thérapeutique, surtout du travail avec les patients qui ont subi l'impact d'un traumatisme, car elle, l'identification projective, permet au thérapeute d'appréhender les obstacles à l'intégration psychique du patient. L'objectif global de la PFT est l'intégration des éléments dissociés du psychisme en un ensemble riche et harmonieux. Merci. Une supposition fondamentale de cette méthode est que l'être humain est un animal social qui cherche en même temps le lien avec l'autre et aussi l'autonomie. Et il peut avoir un conflit entre les deux. Ces deux objectifs sont liés, le premier avec les pulsions libidinales et le deuxième avec les pulsions agressives. J'ai déjà discuté l'organisation schizoparanoïde qui divise le monde entre le tout bon et le tout mauvais, les deux étant séparés par le clivage. C'est chez les individus qui ont subi des traumatismes sévères, ce clivage atteint le niveau de la dissociation. Les questions théoriques sur la relation entre clivage et dissociation, et plus particulièrement de savoir si le clivage est un phénomène dissociatif relatif au traumatisme, dépassent le cadre de cette présentation. Il suffira, pour les besoins de cette discussion, de considérer la dissociation comme une forme extrême du clivage. Il est essentiel de comprendre que le conflit est le moteur du clivage et de la dissociation. Le conflit principal est celui entre l'approche à l'autre, la recherche de l'intimité et du lien avec l'autre, le conflit entre ça et le rejet du contact et le rejet de la dépendance. Un rejet qui sert à protéger contre le risque de l'attaque ou du contrôle de l'autre. Au fond, le conflit est entre l'amour et l'agressivité. Dans l'organisation schizoparanoïde, le monde interne clivé comporte des dyades investies par des affects opposés. Du côté négatif de ce monde clivé, les dyades totalement dures se composent d'images de relations de persécution et de domination, basées sur un mélange de réalités subjectives passées, de ses propres affects agressifs qui sont liés à ces représentations et de l'identification avec les agresseurs combinée avec une forte crainte. Et ça, c'est un élément qu'on trouve n'est pas suffisamment respecté actuellement, qui est l'identification avec l'agresseur. Et dans le monde des spécialistes dans le traumatisme, c'est un peu mal vu d'en parler. Peut-être qu'il y aura un débat sur cela après mon discours. Dans la situation thérapeutique, comme dans toute relation, il se peut que les deux pôles de la dyade, et ici on parle de la dyade d'affect négatif où il y a l'abuseur, le persécuteur et le victime, il se peut que les deux pôles de la dyade peuvent changer de place. Il y a un renversement de rôle. La victime anxieuse qui craint les représailles d'un autrui puissant peut soudain devenir une force dominante attaquant à l'autre à présent affaibli. Ceci présente un défi pour le thérapeute parce que le renversement de rôle se passe le plus fréquemment dans le comportement du patient sans qu'il en soit conscient. Si le thérapeute est vécu comme un mauvais objet, un objet méchant et dangereux, le patient peut attaquer pour se protéger d'être détruit, promulguant ainsi l'agression sans avoir totalement conscience d'être agressif. Ce modèle de pensée du type relation d'objet conduit le thérapeute à explorer ses projections d'une manière empathique vis-à-vis du patient, cherchant, et ici c'est le concept clé et central, cherchant à regarder comme par les yeux du patient. On veut apprécier et comprendre la manière du patient de nous apercevoir. Cette perspective est très utile dans la compréhension et la gestion de l'aller-retour constant des interactions au coup par coup dans le traitement des patients atteints de troubles de personnalité ainsi que des troubles dissociatifs sévères. Les interventions de la PFT consiste à explorer le monde intérieur du patient et sa vision du thérapeute à partir de ce monde. Pour y parvenir, il est particulièrement important d'expérimenter pleinement le transfert dans l'ici et le maintenant. La question que le thérapeute doit se poser est : le patient, que fait-il de moi en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait de moi ? Il faut suivre avec empathie le patient dans sa création du thérapeute, contenant la dyade ainsi exprimée et présentant cette information au patient. Ça peut paraître assez simple et net, mais quand j'arrive à l'exemple du soldat enfant, on va voir que c'est assez fort que de faire ça. Ainsi, une intervention pourrait être construite comme la suivante. Et je cite un exemple. Si je vous comprends bien, C'est comme si vous me voyez en tant que quelqu'un de cruel et de dominant. Cela doit être une situation très effrayante pour vous. C'est pas refuser la perception de nous, c'est entrer dans l'exploration de cela. Lorsque les patients font l'expérience d'être correctement compris par notre articulation de la relation comme ils la perçoivent et comme ils la ressentent, normalement, ils se calment, même s'ils sont dans un état assez intense d'affect, et ils peuvent commencer à réfléchir sur ce qui se passe. Une fois que le fonctionnement de réflexion du patient commence à s'améliorer, et c'est une chose qui peut au début durer peut-être quelques secondes, la tâche du thérapeute est de confronter soigneusement le patient avec les incohérences et oscillations entre les dyades, c'est-à-dire la discontinuité de l'expérience vécue dans les séances de la thérapie, suscitant la curiosité empathique du patient pour son propre monde intérieur. Pour le dire simplement, le patient ne peut pas réfléchir sur ce qui est en lui. C'est trop fort pour lui de le faire tout seul. Un exemple d'intervention serait le suivant. Et je cite l'exemple. C'est intéressant. Il y a quelques minutes, notre conversation semblait plutôt intime et vous aviez partagé votre tristesse avec moi. Apparemment, me voyant comme un interlocuteur sûr et fiable. Mais tout d'un coup, il semblerait que vous me percevez comme une menace contre laquelle vous devez vous protéger en reprenant le contrôle total. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ces deux états d'esprit tellement différents? Donc c'est une invitation à la réflexion sur ce qui s'est passé et d'essayer de mettre ensemble ce qui est clivé dans l'esprit de la personne. Et enfin, lorsque le patient est capable de réfléchir et d'expérimenter la relation thérapeutique comme favorable, au moins pour une partie du temps, il appartient au thérapeute d'interpréter les strates défensives des dyades opposées. L'interprétation en PFT est un processus qui conduit à présenter simultanément les dyades positives et négatives du patient, tout en les reliant. Par exemple, on pourrait dire, se peut-il que d'une part, votre colère soit tellement extrême, vous distanciant par rapport à moi, parce que d'autre part, vous vous sentez si vulnérable en prenant conscience du fait que vous désirez profondément une relation avec une figure qui pourrait vous aider de confiance. Bon, je vais résumer. Est-ce qu'il se peut que votre colère soit tellement extrême pour ne pas permettre l'apparence du désir de se mettre en contact que vous pourriez imaginer comme dangereux? Ou autre exemple, se peut-il que vous semblez préférer me voir comme totalement indigne de confiance parce que me percevoir comme digne de confiance et fiable vous fait ressentir toute la tristesse de vos pertes? Se peut-il qu'en agissant ainsi, vous protégez votre cœur contre la perte d'un être cher pour la deuxième fois? Donc on essaie de comprendre la fonction défensive de la partie agressive contre la partie libidinale. Et je ne sais pas dans ce discours, mais c'est quelque chose sur lequel j'avais insisté ce matin. Ça, c'est dans le cas des personnes limites de haut niveau, chez lesquelles le désir d'être en relation, la pulsion libidale, existe d'une manière importante. Mais le problème, ou un des problèmes avec le diagnostic limite tel qu'il est défini maintenant, c'est qu'il y a tout un rayon de niveau et ce qui est plus bas est différent. Il n'y a pas ce désir libidinal. Il y a plutôt un taux important d'agressivité avec peut-être très peu de désir libidinal. Et c'est pour ça que l'approche aux patients de haut niveau est différente de l'approche aux patients de bas niveau. L'exemple ici est un exemple d'une patiente de haut niveau qui avaient ce désir libidinal. Mais si la personne a très peu de cela ou pas du tout de cela, c'est plutôt quelque chose où on peut imaginer une personnalité antisociale. Bon. Alors, l'interprétation porte sur le vous et moi, sur le ici et maintenant. Elle n'est pas étiologique. On pense que les interprétations étiologiques sont trop intellectuelles et ne touchent pas à l'affect de la personne. Tout ce processus d'interaction et d'interprétation, étape par étape, aboutit à l'atténuation progressive de la rage et de la colère et finalement à l'intégration de la personnalité. Dans cette thérapie, le patient est tenu responsable de son rétablissement. Cela signifie qu'au début du traitement, un contrat est passé concernant les passages à l'acte autodestructeur ou les actes destructeurs tout court, en expliquant au patient que ce comportement est contraire à une évolution vers la santé et prive la thérapie des affects qui motivent les passages à l'acte. C'est-à-dire que les passages à l'acte sont une manière de court-circuiter l'expérience de l'affect et on a besoin de l'expérience de l'affect pour entrer dans une thérapie en profondeur. Lorsque le patient pourrait souligner qu'il ne connaît qu'une seule solution au conflit, à savoir l'utilisation de la violence contre lui-même ou contre un autre, le thérapeute le tient pour responsable de son empêché. On pourrait dire au patient, tous les sentiments en droit de cité et sont pris en compte, même la rage meurtrière, pourvu que nous puissions en parler et ne pas passer à l'acte. Lorsque le patient décrit une tendance au passage à l'acte ou quand il a agi ainsi, on lui demande d'en parler en premier lieu à la prochaine séance. Bon. En anticipant le cas que je vais vous décrire, on peut résumer un peu un concept central dans notre méthode, puisque c'est un cas d'un soldat enfant très traumatisé. On peut dire le soldat doit apprendre à parler. C'est-à-dire que la personne ne peut pas parler, ne peut pas symboliser ses affects. Donc, voici le cas. Ishmael était un homme de 21 ans quand il avait commencé la thérapie. D'origine de la Sierra Leone, il était venu aux Pays-Bas à l'âge, et c'est mes co-auteurs qui ont écrit le cas, mes collègues hollandais. Il est venu aux Pays-Bas à l'âge de 18 ans. Pendant 3 années, il avait participé dans une thérapie de soutien dont les objectifs principaux étaient de stabiliser les affects et lui donner un support, un soutien. Mais cette thérapie n'avait pas de succès. Ensuite, la thérapeute a changé un modèle de PFT. Il était bientôt évident, en changeant de modèle, que Ishmael était très ambivalent en relation à la thérapie. Il était motivé, mais en même temps, il avait peur de l'intimité inhérente dans la relation thérapeutique. Il avait surtout peur de la possibilité qu'il perde le contrôle de son agressivité et qu'il blesse un autre qui serait innocent. Et en fait, dans sa vie, il avait battu sa petite amie. Les diagnostics initiaux d'Ishmael étaient le trouble d'identité dissociative, le syndrome de stress post-traumatique, la dépression et le trouble personnalité non spécifié. Il avait des idées de suicide chronique et il avait été hospitalisé une fois. Il décrivait des sentiments de méfiance intense, de culpabilité et de honte, de solitude extrême et, au fond, le sentiment de ne pas être humain. Il a dit, il y a des moments quand je me sens plus animal qu'humain. Quelle était son histoire? Comme j'ai dit, il est né en Sierra Leone. Il a décrit les premières années de sa vie comme stable et plus ou moins heureuse. Il a passé une enfance suffisamment bien. Mais à l'âge de 8 ans, des soldats ont tué sa mère devant ses yeux. Elle en prie. Depuis ce moment, il n'a jamais vu son père ni sa sœur. Et il est devenu enfant esclave. Avec les rebelles, il était témoin d'un nombre de cruautés sans nombre. Innombrable. OK, vous me comprenez. Innombrable. OK. Acte de cruauté. Et il était forcé à participer dans ces actes. Après 5 ans de cette vie comme soldat-enfant, il a pu s'échapper. Et après une période dans la capitale de son pays, il a pu aller vivre aux Pays-Bas où il a cherché l'asile. Bon, on va maintenant entrer dans un résumé de la thérapie. La difficulté la plus importante au début de la thérapie a été l'impossibilité de se maintenir présent psychologiquement dans la relation avec l'autre. Une manifestation de ceci était ou une forme de dissociation, surtout de s'absenter de la situation, ou une manière d'assumer une attitude de dominance extrême et d'agressivité en relation au thérapeute. En même temps, il décrivait des sentiments de paranoïa avec des craintes intenses d'être abusé, exploité, humilié et surtout abandonné. Il n'a pas pu se servir des techniques de régulation d'affect qu'il avait appris dans la thérapie précédente. Bon, on va maintenant entrer dans l'expérience de la thérapeute, puisque, comme je vous ai dit, l'identification projective est très importante. C'est en fait le chemin à l'expérience inconnue que la personne même, le patient, ne peut pas connaître en lui-même. Au début, la thérapeute se sentait inondée par la peur face au moment quand Ishmael paraissait agressif. Elle luttait pour maintenir la capacité de réfléchir sur ce qui se passait dans les séances. Dans ce contexte, le cadre à la fois théorique et pratique de la thérapie l'ont aidé à tenir ferme et à comprendre les forces intenses et confuses qui étaient en jeu dans ces séances de thérapie. Ça, c'est une fonction essentielle du cadre, d'être un genre de... Ça nous offre des points de repère qui peuvent nous stabiliser quand nous sommes comblés d'affect. Le changement au modèle PFT avait comporté la transition d'un modèle de thérapie qui se focalisait sur une personne, le patient et ses symptômes, à un modèle de thérapie à deux personnes qui se focalisait sur les forces et conflits dynamiques qui se déployait dans le champ interpersonnel entre le patient et la thérapeute. Décrivant sa première réaction, la première réaction de la thérapeute à la transition à la PFT, elle a décrit la transition ainsi, et je cite, il y avait une augmentation presque immédiate de contact et de compréhension de son expérience, de ce qu'il vivait dès le moment quand j'ai commencé à explorer et à voir par ses yeux la personne qu'il faisait de moi. J'ai pu comprendre la dissociation et l'agressivité comme des moyens de contrôler, de réguler la distance et le niveau de contact dans notre relation. Ça, c'est fin de citation. Pour retourner un peu à notre modèle des dyades de relation, elle a décrit les premières dyades dominantes qui sont apparues dans la thérapie ainsi. En premier, le soi omnipotent et contrôlant en relation à l'autre faible, c'est-à-dire en ce cas la thérapeute faible en position d'esclave, elle. Deuxième dyade, le soi comme victime abusée en relation au sadique persécuteur. Troisième dyade, l'enfant enragé et sans contrôle en relation aux parents incompétents et inutiles. Et quatrième dyade, l'enfant dépendant, satisfait et soumis en relation au nourricier parfait. Bon, ça nous donne un peu un portrait de la situation. Et maintenant, je vais offrir un exemple plus détaillé d'une interaction transfert-contre-transfert qui illustre la nature des relations dynamiques dans cette thérapie. Après avoir partagé une de ses expériences les plus traumatiques avec la thérapeute, Ishmael se sentait triste et paraît-il vulnérable. Mais d'un instant, il avait changé à un état totalement différent. La thérapeute a décrit le moment ainsi, et je cite, « Je me sentais submergé, en anglais c'est overwhelmed, je ne sais pas si submergé suffit, mais c'est vraiment inondé, par un changement abrupt de la tristesse à l'agressivité. Ses yeux sont devenus très aigus et d'une manière dérogatoire, il me dit, « Vous ne voyez pas ? La lutte est partout autour de vous. » Son regard est devenu très dur avec un air d'indifférence. Ses lèvres ont pris la forme d'un sourire sadique. J'avais l'impression que je faisais partie de la répétition d'une expérience violente et cruelle et qu'on était face à face dans une situation de combat. L'Ishmael que je connaissais n'était plus celui qui était devant moi. Je voyais un rebelle extrêmement dangereux et menaçant qui était capable de n'importe quoi. Je me demandais s'il voyait la même menace en moi. J'étais dans la confusion. Mon corps se sentait en danger et j'avais un état hyper vigilant. Je continue avec les citations. J'ai eu l'instinct de regarder ses mains, me demandant s'il m'attaquerait. L'essentiel dans le moment était de rester calme et réflexif. Mais il y avait un sentiment de chaos qui m'envahissait. Je ne pouvais plus réfléchir sur ce qui se passait et je me sentais inondé de peur. Je cherchais désespérément mon cadre thérapeutique et mes outils thérapeutiques, mais pour le moment, je ne les ai pas trouvés. Je me sentais paralysé et vulnérable. J'avais l'impression que je ne pouvais pas gagner cette bataille, qu'il était plus fort que moi. Fin de citation. Dans des circonstances si intenses que cela, l'essentiel est de pouvoir nommer l'affect. Avant de s'adresser au pourquoi ça, c'est comme ça, il est plus important de se mettre d'accord sur le quoi. Qu'est-ce qui est là? Puisque l'approche psychanalytique a tendance à vouloir expliquer les choses avant de connaître les choses. Les gens avec le clivage ne connaissent pas ce qui est en eux, donc il faut parler de quoi avant du pourquoi. La thérapeute d'Ishmael a continué sa description, et je cite, « Avec le maximum de tact que je pouvais trouver en moi, je lui ai demandé comment il décrirait son affect et, si cela le surprendrait, d'imaginer un affect agressif dans le moment. Il avait l'air étonné. Subitement, son agressivité a disparu. Il a nié toute colère et toute agressivité. Et en ce moment, c'était lui qui était dans la confusion et qui paraissait vulnérable. Je me sentais en ce moment l'agresseur pour avoir nommé son agressivité. Lui, il était victime de moi. Je ne voulais pas de ce rôle. Il y avait encore de la confusion. » Bon, ça c'est fin de citation. Dans la supervision après cette séance, le superviseur et la thérapeute ont vu une défense agressive contre la tristesse et la vulnérabilité en même temps. Excuse-moi, j'ai mal dit. Dans la supervision, après cette séance, le superviseur et la thérapeute ont vu une défense agressive contre la tristesse et la vulnérabilité en même temps que la répétition d'un traumatisme. Tout ceci avait créé dans la thérapeute un sens terrifiant de soumission et de confusion. Le patient avait réussi à évoquer dans la thérapeute la peur extrême qu'il n'a pas été capable de verbaliser ou même de sentir consciemment. Il y a eu un renversement de rôle entre le persécuteur sadique et le victime abusé. La première tâche du thérapeute dans de telles circonstances est de tolérer l'affect qui est insupportable pour le patient. Et j'insiste sur cela, puisque vous savez probablement tous, si vous faites la thérapie, qu'il y a des moments en thérapie, on est là physiquement, mais on se distancie au niveau affectif. Et ça, c'est l'erreur le plus majeur, le pire, puisque si nous ne pouvons pas vivre et contenir l'affect de la personne, c'est le message qu'il craint, qui est que ce qui existe en lui n'est pas supportable, qu'un être humain ne peut pas vivre ça, donc il est seul avec cela. Si le thérapeute est capable de vivre cette peur et de maintenir la capacité de réfléchir sur l'expérience, elle pourrait contenir le, soi-disant, mauvais objet, la représentation de ce qui est agressif et hostile, cette représentation qui a été projetée sur elle, et ensuite, après pouvoir contenir ça, elle peut tenter d'engager le patient dans l'expérience de réfléchir sur et de connaître symboliquement ce qui jusque-là existait dans le patient comme un état affectif cru et non symbolisé. La curiosité empathique de la thérapie par rapport à cet affect, au lieu d'un rejet ou d'un retrait de cela, peut engager le patient à mieux connaître cet affect et de vivre cela dans un contexte plus large qui permet de l'intégrer dans d'autres expériences et qui arrive à faire sortir cette expérience un peu séquestrée dans son psychisme. Ainsi, le patient commence à se rendre compte que l'état affectif, le patient commence à se rendre compte que l'état affectif qui le comble peut exister en relation avec d'autres états affectifs. Cela aidera le patient à comprendre que cet affect n'exclut pas l'expérience d'autres expériences affectives et donc cet affect ne représente pas la réalité totale de la relation avec l'autre. Cette perspective plus large modifie son expérience et de lui-même et de l'autre. Le soi et l'autre commencent à cesser d'être unidimensionnels et extrêmes. Le soi et l'autre commencent à cesser d'être unidimensionnels et insupportablement intenses. Il y a la capacité de réfléchir, mais il se peut que cette capacité, au début, ne durera que quelques secondes. C'est une capacité qui apparaît et qui disparaît puisque c'est un nouveau terrain pour le patient. Il n'a pas l'habitude de vivre dans ce terrain. C'est l'inconnu pour lui et donc ça l'angoisse. Cependant, même si ce n'est que pour quelques secondes, c'est le début de la capacité de contenir les affects et de réfléchir sur celle-là qui suit la capacité de la thérapeute de tolérer, d'accepter et de contenir tous les affects qui entrent dans la thérapie. Le processus dans le patient est de lentement réunir les images du persécuteur qu'il craint et de la personne curieuse, empathique et réfléchissante qui est devant lui, une personne qu'il pourrait secrètement désirer. Il n'ose pas reconnaître le désir consciemment, puisque c'est trop dangereux. Chacune de ces personnes, c'est-à-dire le persécuteur et la personne réfléchissante, est un reflet d'un état interne en lui. Ici commence le processus de l'intégration. Les états de soi et les objets internes persécutoires deviennent petit à petit détoxifiés. On peut les réfléchir, on peut les métaboliser. Avec l'évolution de la thérapie, la thérapeute éprouvait des sentiments extrêmes de tristesse. Donc ça a changé. Avant, c'était la peur. Maintenant, il y a la tristesse qui est dominante. Parallèlement, le patient manifestait une meilleure capacité de tolérer ses sentiments de vulnérabilité et de rester en contact affectif avec la thérapeute. En ce moment, la thérapeute a décrit la situation ainsi. Ishmael a exprimé des sentiments intenses d'être sans valeur. Ces sentiments étaient liés au traumatisme qu'il avait vécu comme victime. Il a dit qu'il cherchait la paix dans la mort. J'ai senti sa haine de soi-même et sa douleur. J'avais de la difficulté à être en présence de ses sentiments. Et j'ai essayé de changer sa perspective de culpabilité et de honte de lui-même. J'ai essayé de lui donner une rassurance que ce n'était pas le cas. Mais ceci paraissait créer une distance entre nous. Il m'a fait savoir qu'il n'y avait pas la place pour ce discours de rassurance. En examinant mon contre-transfert, je lui ai expliqué que ma tentative de changer sa perspective était un effort futile de ma part de gérer des sentiments d'impuissance que sa tristesse avait suscité en moi. Et en lui parlant, j'ai ajouté, et c'est ce qu'elle a dit au patient, nous pourrions permettre la tristesse d'exister entre nous en restant assis l'un avec l'autre, sans en parler. Il a dit que ça lui plairait, surtout puisqu'il n'y avait pas d'autre endroit où il pouvait tout simplement vivre cela. Fin de citation. Fin de ce qu'elle a dit à Ishmael, mais je continue avec la citation de la description de la thérapeute. Dans un moment de contact des yeux, la tristesse m'a frappé. Il a vu que mes yeux se sont mouillés et il a vu que sa tristesse m'avait touché. Pendant un instant, il s'est retourné, mais il a repris contact avec mon regard et il a permis sa tristesse de continuer dans ma présence. Le moment de contact était intense. À la fin de la séance, il m'a dit que ce contact que la projection n'avait pas permis jusque-là, ça c'est mon commentaire, mais il m'a dit que ce contact lui avait permis de se sentir plus en contact avec moi et donc moins seul. Fin de citation. Du point de vue des dyades, le sentiment d'impuissance et de tristesse de la thérapeute venait de l'identification projective. Sa tentative précoce de soulager le patient et de s'éloigner de sa tristesse était une forme de passage à l'acte de sa part. Semble le passage de l'acte du patient, l'incapacité de vivre l'affect et la nécessité de trouver le moyen de s'y échapper. Le moment de changement est arrivé quand la thérapeute a accepté la tristesse profonde et le patient s'en est rendu compte et il a compris que la thérapeute pouvait accepter de vivre et de tolérer l'émotion ensemble. Être là, tout simplement être là, ensemble avec la tristesse, a ouvert la porte à tolérer le contact, la relation, et a ouvert la porte à tout ce qu'il avait senti en relation à la mère qu'il avait perdue. Et à ce moment, on peut entrer dans le travail du deuil, puisque les défenses primitives défendent contre cela aussi. Après 10 mois, et je commence à résumer, combien de temps il nous reste? Il ne nous reste pas de temps. Ah, ok. On a passé l'heure. Je m'excuse. Oui, comment est-ce que je vais résumer cela, puisque je me suis un peu perdu. Oui. Pour terminer, je vais lire le dernier paragraphe. Il existe... Ouais, non. Notre position est qu'il est essentiel de s'adresser à l'agressivité des patients, ce qui n'est pas commun et qui est mal vu dans le monde des spécialistes du traumatisme. D'accepter que cela représente une partie du patient et que, sans cette reconnaissance, il sera impossible d'accéder à l'intégration de la personnalité et à offrir au patient une vie la plus pleine possible. Donc, s'il y a une ou deux commentaires, je les invite, mais je m'excuse du temps que j'ai mis dans le discours.